Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour les filles.
Bonjour les amis.
Guillaume, bonjour à tous.
Et ben voilà, on retrouve Caroline hein, parce que la quinzaine dernière, elle n'était pas avec nous. Donc,
De vous avoir lâché.
Alors,
mais tu étais dans nos cœurs, Caroline.
Ah, oui.
Mais
vous aussi, vous aussi.
On avait dit que tu devais mettre une note à l'émission, mais...
Tu l'as peut-être pas écouté.
Pas encore, on va dire.
Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas vraiment fait la promo sur 48 FM.
Peut-être aussi.
Alors tu as oublié.
Bien, alors...
Elle taquine, hein, Anne-Marie. Ouais,
au sommaire aujourd'hui, Anne-Marie.
Je vais vous parler d'aventure. Ah. Et toi, Guillaume?
Alors moi, je vais vous parler aussi d'aventure, mais...
C'est la même chronique.
Non, je crois pas.
Pas dans le même registre.
Non,
alors.
Pas dans le même registre. Ça serait une chronique coquine pour moi aujourd'hui.
Oh.
Ça faisait longtemps.
Et toi, Caroline?
Alors moi, je voudrais quand même dire, on va le dire de suite, parce que de toute façon, on va se louper au cours de l'émission. On enregistre, on est mardi, et bien évidemment, on s'est un peu levé avec, à nouveau, une très mauvaise nouvelle ce matin. Alors c'est compliqué de faire une émission légère et coquine oui. Dans ce contexte. Voilà, je le dis de suite, on ne va pas s'apesantir plus, mais bon, c'est vrai, une petite pensée pour nos amis belges. Je l'ai mis sur Facebook, on ne va pas faire du centrisme ou du tropisme européen. J'ai aussi une pensée pour l'Afrique qui est secouée quand même presque hebdomadairement par des attentats tout aussi barbares et aveugles. Mais voilà,
c'est toujours le problème de la proximité.
Complètement.
Comme l'Afrique, c'est un peu plus loin, on en parle moins. Enfin, ce sont quand même des femmes, des hommes, des enfants qui meurent dans...
De cette même barbarie.
Ah ouais. C'est vraiment, des tragiques souffrances.
Bon, c'est vrai que la Belgique nous touche, hein, puisqu'on sait aussi pertinemment que c'est certainement l'onde de choc du 13
comme,
novembre. Hein.
Comme les attentats à Bamako et Abidjan sont des ondes de choc aussi. Ouais,
j'ai reçu cette semaine la présidente de Peuple Solidaire qui rentre du Burkina Faso, qui a été touchée là, en janvier aussi. Enfin, voilà, des nouveaux pays qui sont ciblés, il y en a vraiment toutes les semaines. Quoi.
Bon, et donc tu nous parleras
et alors bon, je vais quand même vous parler du printemps, puisque c'est le moment.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Voilà, dernière bouchée de carottes râpées, c'est parti pour Anne-Marie.
J'ai la bouche vide. Donc oui, je voulais vous parler d'aventure et je ne vais pas vous l'apprendre, encore moins donc en ce jour, puisque Caroline vous l'a dit, on enregistre en ce mardi, où il y a eu donc les attentats qui se sont produits en Belgique. Je ne vais pas vous l'apprendre, on n'a qu'une seule vie. C'est peut-être cette constatation qui nous pousse à nous surpasser, à vivre des moments toujours plus insolites, toujours plus dangereux. Bref, on aime parfois titiller la mort pour se sentir vivant. Mais vous allez me demander, c'est quoi en fait une aventure ?
Oh oui, c'est quoi une aventure ?
Alors une aventure est une suite de péripéties et de rebondissements constituant le plus souvent la trame d'une histoire fictive ou réel. Alors, il peut également s'agir d'un événement fortuit, de caractère singulier ou surprenant, qui concerne une ou plusieurs personnes. L'expérience d'une aventure peut créer ainsi une excitation psychologique ou physiologique qui peut être interprétée comme négative, par exemple avec ce sentiment de peur, ou bien interprétée de façon positive, et c'est là où on parle de sensation de se sentir vivant.
On peut parler aussi d'aventure amoureuse, on en parlera tout à l'heure.
Voilà, exactement, je ne voulais pas trop en parler puisqu'apparemment c'est ta thématique de ta chronique, Guillaume, mais c'est vrai, on parle aussi d'aventure amoureuse. Vivre une aventure, c'est s'offrir un coup de folie. On ne parle pas alors réellement de sentiments amoureux, mais plus d'une envie de prendre du plaisir, un plaisir intense et charnel. On brave l'interdit pour atteindre le nirvana.
Ça rejoint le se sentir vivant que tu évoquais juste avant.
Mais c'est pour ça que j'ai quand même voulu en parler, même si c'est que brièvement. Voilà.
Mais alors pourquoi nous parler d'aventure ?
C'est en regardant donc l'émission The Island, Seul au monde,
qui marche très très mal. Hein.
Qui marche pas très bien cette année, c'est vrai. Diffusée le mardi, donc sur M6. Et c'est en regardant cette émission que je me suis fait cette réflexion. Qu'est-ce qui nous pousse finalement à participer à ce genre d'émission ? Et qu'est-ce qui nous pousse aussi à regarder ces émissions ? Car je vous le rappelle, le concept de cette émission The Island est simple et à la fois c'est terrifiant, je trouve, puisqu'il n'y a qu'une seule règle. Cette règle, c'est survivre. 13 hommes et cette année, pour la deuxième saison, 13 femmes. Et là, apparemment, l'épisode concernant les femmes marche mieux.
Oui, et donc il va passer en début de soirée, voilà. Alors que la semaine dernière,
c'était en deuxième.
C'était en deuxième partie de soirée.
Exactement. Donc, 13 hommes et 13 femmes sur deux îles différentes doivent tenter de survivre sans aide extérieure sur une île déserte pendant 28 jours. Il n'y a ni équipe, ni concurrence, ni épreuve, pas non plus de gain à la fin, même si, comme toutes les émissions de télé-réalité, les candidats sont malgré tout payés pour faire ce genre d'émission.
Et puis pour aller aux anges de la télé-réalité.
Oui, bah oui, la télé-réalité, effectivement. Alors, les candidats disposent au départ de 3 couteaux, 3 machettes et 3 jerrycans de 10 litres d'eau, ainsi qu'une trousse de secours. Et donc, avant leur départ, ils ont quand même reçu une formation à la survie, parce que bah, ça ne s'improvise pas quand même, ainsi que des conseils qui ont été donnés par l'aventurier Mike Horn. Alors, qui est cet homme ? Mais vous en avez sûrement déjà en entendre parler, puisqu'il est quand même relativement célèbre, et puis il a sorti dernièrement de nombreux bouquins. Donc Mike, c'est un aventurier, mais alors lui c'est un vrai, c'est un pro, capable de manger n'importe quoi et capable de faire aussi des aventures incroyables. Alors c'est un ancien lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines qui a réussi par exemple en 2004 à faire le tour du monde en suivant le cercle polaire. Il a fait ça à pied, à vélo, kayak, voilier, ski et ski tracté par un cerf-volant. Durant l'hiver 2006, avec un ami, ils ont mis 2 mois pour effectuer un périple de 1000 km au pôle Nord, presque totalement dans l'obscurité, sur des plaques de glace mobiles et sans aucune possibilité de ravitaillement ou de secours. Et ça, ça a duré 2 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ça fait rêver.
Oui, voilà, c'est ça. Mais tu te dis, c'est atroce, quoi. Ce gars, il a une force mentale, mais c'est hallucinant. Et alors, pour s'entraîner, ça, je l'ai vu quand il avait été invité dernièrement dans C'est dans l'air sur France 5, pour s'entraîner, lorsqu'il court, il est attaché à un pneu de voiture. Comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, c'est juste un mec qui est complètement un mec taré. Mais c'est la figure emblématique aujourd'hui de l'aventurier. Et donc, c'est cet aventurier qui anime l'émission The Island. Alors, pour en revenir à cette émission, donc les candidats doivent se débrouiller pour trouver bien à boire, puisque bon, même s'ils sont sur une île, l'eau de la mer n'est pas d'eau potable. Donc, c'est souvent l'eau qui tombe du ciel, la pluie, grâce à laquelle ils vont pouvoir boire. Et puis, il faut aussi qu'ils trouvent à manger. Mais quand on n'a pas de feu, c'est compliqué. Quand on n'a pas de filet de pêche non plus, comment faire pour... Pour manger, généralement, on mange des fruits, mais enfin bon, c'est pas ça qui nourrit un homme.
Ouais, je voyais dans la bande-annonce hier un petit jeune là, qui avait l'air un peu dépité de ne pas pouvoir faire de feu, pas pouvoir manger.
C'est compliqué, hein, c'est sûr.
Ah,
hein.
Oui, c'est sûr.
Donc bref, c'est une émission diffusée les mardis qui fait passer quand même Koh-Lanta. Là, c'est une émission qui marche, hein, Guillaume. Autre émission donc d'aventure, mais cette fois-ci qui est diffusée le vendredi sur TF1, eh bien, The Island réussit à faire passer Koh-Lanta pour un hôtel 5 étoiles, puisque les aventuriers quand même sur Koh-Lanta, eux, ont accès à de l'eau potable. Et puis, sur cette île, eh bien, ils peuvent gagner du riz lors des épreuves de confort. Alors, vous allez me dire aussi que peut-être les aventures, ça marche sur grand écran, puisque je sais que vous aimez bien aller au cinéma. Eh bien oui, effectivement, les cinéphiles aiment lorsqu'un film les dépayse et les entraîne aux quatre coins du monde, suivant les péripéties des héros de cinéma. La rédaction de l'internaute a sélectionné les 20 meilleurs films d'aventure. Alors évidemment, c'est un classement qui est tout à fait subjectif et peut-être que vous, vous n'auriez pas mis ces films. Alors en tout cas, je vous donne leur classement, un classement qui regroupe les gros succès au box-office, les films cultes et puis aussi les films incontournables dans le genre de l'aventure. Donc ainsi, on y retrouve eh bien, Hunger Games. On y retrouve aussi Les Aventuriers de l'Arche Perdue avec Harrison Ford. On a bien évidemment James Bond 007, Pirates des Caraïbes, Le Salaire de la Peur avec Yves Montand. Alors vous voyez, c'est, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a aussi Into the Wild, Seul au Monde avec... pardon ?
Ah oui, pour Seul au Monde.
Oui.
Oui, non.
Seul au Monde donc avec
Tom Hanks. Tu me demandes notre avis, on te le donne.
Ah oui, non, mais c'est que j'avais pas compris ce que tu m'avais dit, c'est pour ça, Guillaume. On retrouve aussi La Momie ou encore Le Hobbit, La Bataille des Cinq Armées. On n'oublie pas non plus Star Wars, même si c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que c'est aussi de la science-fiction. Mais voilà, peut-être que toi, Guillaume, ce classement te va. Oui, j'ai l'impression.
Oui, globalement, oui.
Globalement, oui. Caroline aussi. Voilà. Très bien.
On fait juste autre... enfin, voilà, pour vous expliquer, Caroline est en train de finir d'écrire sa chronique. Et moi, je suis en train de manger.
Voilà. Donc, en gros, on suit, et ça nous va bien.
Non, ça nous va bien.
Bon, maintenant, je suis rassurée, merci.
Si on parle de littérature maintenant.
Oui, alors le roman d'aventure est souvent bien identifiable. Alors, dans les grandes lignes, l'auteur place un héros et des situations problématiques dont il extirpe sous les yeux du lecteur, donc ce héros. Le roman d'aventure, suivant l'époque et les mœurs, évidemment, ou le courant littéraire de l'auteur, fait la paire belle à l'ingéniosité ou au suspense. Alors, la plupart des anciennes histoires connues à travers le monde sont des histoires d'aventure, comme l'Odyssée d'Homère. Alors, pour rappel, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais malgré tout, je vous le redis, l'Odyssée relate le retour chez lui du héros Ulysse, qui, après la guerre de Troie, dans laquelle il a joué un rôle déterminant, et met 10 ans à revenir donc, dans son île, Ithaque, pour y retrouver sa femme, son épouse, hein, qui, je vous le rappelle, s'appelle Pénélope, qu'il délivre des prétendants, et son fils Télémaque. Au cours de son voyage sur mer, rendu périlleux par le courroux du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques. On se souvient de la nymphe Calypso, mais aussi de la princesse Nausicaa, les cyclopes, la magicienne Circé et les sirènes. L'auteur Jean-Yves Tadier explique, je le cite, qu'un roman d'aventure n'est pas seulement un roman où il y a des aventures, c'est un récit dont l'objectif premier est de raconter des aventures. Il ne peut exister sans elles. L'aventure est l'irruption du hasard ou du destin dans la vie quotidienne où elle introduit un bouleversement qui rend la mort possible, probable, présente. Fin de citation. Alors, le roman d'aventure a connu un succès considérable à partir du milieu du 19e siècle. Il a été illustré à travers la plupart des pays occidentaux par des auteurs aussi considérables que le très connu Robert Louis Stevenson, mais aussi Joseph Conrad, Jack London ou évidemment Jules Verne. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les lecteurs préfèrent malgré tout les charmes de la science-fiction, voire les charmes aussi du roman policier.
Alors, on a aussi une autre forme de vivre l'aventure, finalement, et on joue aux aventuriers.
Oui, puisque nous, c'est difficile d'aller de participer à une émission. Moi, je ne me verrais pas du tout participer à Easy Island, ce n'est pas possible. Mais effectivement...
Avec tes 3 jerrycans, tes 3 couteaux...
Et tes 3 machettes.
Ah, non. Mais déjà, tu es un animal, ce n'est pas possible. Je ne supporte pas les araignées. J'ai besoin de prendre ma douche et d'aller aux toilettes. Donc non, tu vois, je ne suis pas du tout une aventurière. J'avoue, c'est catastrophique. Mais effectivement, on peut jouer quand même aux aventuriers. Et ça, bien, grâce à des jeux vidéo comme les RPG, qui veut dire en fait role-play game. Eh bien, ces role-play games nous proposent de créer un personnage et d'embarquer dans une aventure. On se souvient aussi des jeux vidéo comme celui de Lara Croft qui a eu un succès mondial et phénoménal. Il existe aussi des jeux de rôle papier où l'on crée donc un monde. Les jeux d'aventure coopératifs, faciles d'accès dans un univers de légende cartonnent. Je vais vous citer 2 exemples avec le monde de Warcraft. Alors peut-être que vous ne connaissez pas forcément... Mais il y a des mordus Tu connais
ça,
oui, j'ai...
Non, c'est pas ça, mais...
j'ai eu un copain de promo avec qui j'étais en stage de groupe qui passait toute sa vie à jouer à ce jeu.
Mais parce qu'il y avait vraiment des mordus, et alors quand tu tombes là-dedans, je pense que tu t'en sors pas.
Ça devient en plus une communauté de personnes qui se connaissent, enfin c'est assez...
Et puis ça devient une obsession aussi.
C'est assez excluant, on va dire.
Donc je vais juste expliquer pour ceux justement qui ne connaissent pas le monde de Warcraft. C'est un jeu d'aventure sous forme de jeu de plateau, donc un jeu de plateau de quête et de bataille dans le monde d'Azeroth. Dans ce jeu rapide, de 2 à 4 joueurs luttent pour la gloire et la suprématie lors de leur périple dans le royaume de l'Est en combattant des monstres, les autres joueurs et en accomplissant aussi des quêtes. Chaque joueur joue le rôle d'un des 4 personnages, chacun ayant son propre paquet de cartes. Il y a aussi un autre jeu d'aventure qui s'appelle Wakfu. Je ne sais pas si tu connais, Guillaume.
Non.
C'est un jeu de rôle coopératif où tous les joueurs combattent ensemble au coude à coude et se partagent le butin équitablement. Donc là, c'est vraiment à l'inverse du monde de Warcraft, puisque là, on est ensemble.
Jamais, quoi.
C'est ça. Et alors là, cette équipe est donc prête à affronter les terribles bouffe-tout. Voilà.
D'accord, d'accord Anne-Marie. Alors, je n'ai pas passé la première chanson que nous avions préparée, qui était un petit hommage à Serge Lama.
Bien sûr. Hein,
d'aventure en aventure, voilà. De train en train.
De port en port. Jamais, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps.
Voilà, alors qu'est-ce que
qui
tu fais
une bonne transition à ta chronique,
je vais vous laisser finalement.
Qu'est-ce que tu nous proposes donc d'écouter?
Bah, je vais vous proposer d'écouter Les Aventuriers d'Indochine.
Ah.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Ça faisait du bien d'entendre cette chanson.
Oui,
hein, c'est un petit, ça petit côté dansant. Petit côté...
Exactement.
Bon, alors, donne la pêche, même si la queue est pas belle.
On te retrouve, Guillaume, dans cette deuxième partie de l'émission Actuelle et lui, et on te retrouve un peu coquin.
Et oui, pour tout vous dire, j'hésitais...
Il y avait longtemps.
Oui, c'est ça. Pour tout vous dire, j'hésitais un peu entre un sujet assez plombant, sujet que vous avez pu entendre normalement hier, midi et demi, dans une émission spéciale en direct du mémorial de Rivesaltes, hein, proposé par notre fédération. Donc pas un sujet très très sexy et très sympa, mais bon voilà, vous avez pu l'entendre, vous pouvez le réécouter en podcast aussi. Et donc, bah, effectivement, et cette chronique coquine, et donc j'ai choisi la facilité, et je vous l'avoue, bien encouragé par Ludo, qui me disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sujets un petit peu légers.
On aura peut-être un peu de teasing ce coup-ci.
Alors, en quoi c'est de l'actualité, vous allez me dire. Eh bien, je suis obligé de vous avouer que j'ai reçu il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres un prospectus intitulé « Problème d'érection, en parler tout simplement ». Donc je ne parlerai pas
tu
de
veux nous en parler, Guillaume,
non, je ne parlerai pas de problème d'érection, mais on va rester dans le coquin.
Alors, moi, je voulais juste souligner quelque chose, c'est que tu habites dans le centre-ville de Mende. Je veux pas dire où, mais tu habites dans le centre-ville de Mende. J'habite aussi dans le centre-ville de Mende, mais on n'habite pas dans le même immeuble.
Non.
Tu ne reçois absolument pas les mêmes publicités.
Moi, je ne reçois pas ce genre de publicité.
Mais c'est ton compagnon qui a récupéré cette publicité.
Et tu ne penses pas plutôt que ce soit une personne qui...
Ah, tu penses que c'est une publicité ciblée, c'est ça?
Ah, je sais pas. Tu vas nous dire ça, peut-être.
Non, j'ai dit que je n'en parlerai pas.
Bon. Alors, on parle quand même actualité. Et tu commences... alors, on va commencer avec la rencontre.
C'est ça.
Et avec cette question, quel métier faut-il afficher sur les applications de rencontre pour avoir le plus de contacts? Je rappelle juste au passage que j'avais quand même parlé des sites de rencontre il y a peu.
Mais oui, bien sûr, avec le site spécial moche.
Qui a été ou
pas? On s'en souvient bien. Non.
Par curiosité, c'est ce que je veux dire. Mais...
Oui, mais... Non, mais... un peu ta question, Anne-Marie.
Non, mais voilà, c'était juste...
C'est vrai que c'était tendancieux.
Non, franchement, moi, je l'aurais pas pris, mais enfin bon.
Vous savez, les
bon, ça commence mal. Hein. Bon, donc, depuis 3 mois, l'application Tinder... permet de préciser son emploi dans ses informations de profil. L'occasion rêvée pour la firme de recueillir quelques informations supplémentaires sur les goûts de ses utilisateurs. Publiée donc sur le blog de Tinder, la liste dont je vais vous dire les principaux éléments a été dressée à partir du métier, donc des profils d'utilisateurs ayant le plus souvent été swipés à droite, c'est-à-dire ceux qui sont sur lesquels ça pourrait matcher, hein, les gens avec qui ça pourrait fonctionner. Et donc, c'est basé sur les résultats aux États-Unis de novembre 2015 à janvier 2016. Alors, chez les hommes, il s'agit des pilotes, des chefs d'entreprise et des pompiers, donc pour les 3 métiers les plus appréciés. Chez les femmes, le top 3 est dominé par les kinésithérapeutes, suivi des décoratrices d'intérieur et des entrepreneuses. Aucun moyen de savoir, par contre, si cette liste change selon l'orientation sexuelle des utilisateurs.
C'est marrant, moi j'aurais mis plutôt pour les hommes en premier, bah, les pompiers, et pour les femmes, peut-être les infirmières, non? Enfin, ça fait toujours fantasmer les hommes, ça.
Eh oui, mais non, il vaut mieux être kiné.
Bon. Alors après la rencontre, si rencontre il y a...
C'est ça.
Il y a le baiser.
Ouais, et si ça match, hein, comme il dit,
oui,
c'est
voilà.
Vraiment à la mode, ça, vous avez
c'est ça.
Et si ça marche, donc il y a le baiser. Et alors, cette question qu'on se pose tous et toutes, pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse quelqu'un?
Et oui, c'est l'instant fatidique.
C'est quand on a été sur le site des moches, là.
C'est l'instant fatidique, vos têtes se rapprochent, et bam, vos lèvres se joignent et vos yeux se ferment. Au loin, un feu d'artifice explose,
oh,
tandis que des pétales de rose vous tombent
ça,
sur la tête. Mais vous ne voyez rien de tout ça, car vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez aussi plus votre partenaire, mais c'est meilleur comme ça. Pourquoi ? Des scientifiques de l'Université de Londres viennent de publier un article sur la question, comme le rapporte le Daily Mail. Si vous fermez les yeux pendant un baiser, c'est tout simplement parce qu'il est difficile pour votre cerveau de ressentir la sensation du baiser et d'analyser ce que vous voyez en même temps. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les scientifiques après avoir réalisé l'expérience suivante. Ils ont soumis les participants à des tests visuels pendant que leur réponse sensorielle était mesurée. Bilan, l'acuité visuelle l'emporte sur le toucher. Polly Dalton, chercheuse en psychologie cognitive à l'université, explique au Sunday Times « Une forte concentration sur une tâche visuelle réduit notre sensibilité aux stimuli des autres sens. » Et donc, ça serait dommage de ne pas profiter à 100% des autres sens.
Et donc, une fois qu'on a bien embrassé,
c'est ça,
on ne va pas se coucher. Ah. Désolée pour ceux qui le pensaient. Non, on passe à table.
Oui, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'éjaculation.
Oui, donc on évite de passer au lit.
On y arrivera après.
Parce que le feu d'artifice, il en a déjà parlé, Guillaume. Donc,
quels plats, Guillaume, sont recommandés pour séduire?
Alors, Néon, le magazine, nous raconte l'histoire de Baptiste et Amélie, 29 et 25 ans, ensemble depuis 5 ans et demi. On s'est rencontrés dans une cuisine, elle m'a chopé sur le frigo, on a même une vidéo, c'était sale. Depuis, on adore cuisiner l'un pour l'autre, raconte Baptiste.
Ah bah, je vais pas manger chez eux. Hein.
La première fois qu'il a fait à manger pour elle, il a tout donné, des lasagnes maison. Je n'en avais jamais mangé qu'en surgelé jusque-là. J'ai trouvé ça adorable qu'il ait passé autant de temps dans sa cuisine à découper ses petites carottes et ses petits céleris pour moi, sourit Amélie, amoureuse au point d'en aimer le céleri. Elle, la première chose qu'elle lui a mitonnée, c'est une bonne purée. Depuis, c'est leur plat fétiche en cas de situation de crise. D'autres sont plus inventifs. Jonathan et Célestine se font des repas à thème. En revenant de Bruges et de Bruxelles, il a préparé un repas en B pour pouvoir boire toute la bière qu'ils avaient rapportée. Je me suis retrouvé avec du bambou dans mon assiette, du basilic, du bœuf et du brownie et un bon beaufort entre le plat et le dessert. Alors là, vous allez me dire, quoi, du fromage avant de se galocher? Et alors là, c'est un fromager qui répond, je ne vois pas le problème, de toute façon, les gens picolent tellement qu'ils sentent davantage l'alcool que le fromage, assure Greg, fromager à Levallois-Perret. Pour une soirée à deux, il conseille du chèvre frais avec une confiture de figues, c'est fin et délicat. Et quand, quand il s'agit de déclarer sa flamme, un cœur de Neuchâtel, la forme annoncera la couleur.
Ouais, mais c'est bon, mais c'est fort quand même.
Oui, c'est un peu fort. Si on a des reproches à
en
se
même temps,
faire...
Si on est deux à en manger, c'est pas un problème.
C'est ça, oui. Ouais. Si on a des reproches à se faire, de l'époisse, un truc bien fort pour se donner du courage. Après une engueulade, il faut manger un fromage de saison qui se partage, comme un bon Mont d'Or chaud avec des pommes de terre. C'est pas l'heure de s'engueuler là, et on mangerait bien un petit Mont d'Or. Mmh.
Bien, alors on s'est embrassé, on a mangé. Mmh. Et alors maintenant, bien évidemment, comment on s'appelle?
Et voilà.
Surtout et oui. Devant les autres.
Et oui, ma copine, mon mari, ma chérie, tout ça. Alors sur Facebook, le magazine Néon a reçu de nombreux témoignages et le moins que l'on puisse dire, c'est que parler de sa moitié n'est jamais évident. Premier constat, les dénominations sont variées. Entre potes, pas de chichi, ce sont les surnoms intimes qui priment. Mon chéri, mon mec, ma meuf, chouchou, voire même mon plus un sont à l'honneur. Pour certains, c'est surtout le prénom qui prime sur le surnom. Avant d'être mon compagnon, mon ami, mon copain, mon homme ou autre, c'est d'abord et surtout lui avec son prénom, si original que j'adore. Et alors je dis vite à mes connaissances et au bureau qu'il s'appelle Angelco, comme ça je peux l'appeler tout simplement. Quand le couple évolue, les surnoms changent aussi et la plupart du temps, on se met en place une hiérarchie dans les petits noms en fonction du sérieux et de la durée de la relation. Elodie, 28 ans, explique que ses collègues plus âgés la reprenaient quand elle évoquait son compagnon, lui demandant si ce n'était pas plutôt son copain. On est ensemble depuis qu'on a 17 ans, on était paxé depuis un an à l'époque, c'était un peu plus qu'un copain. Souvent, l'utilisation d'un terme plutôt qu'un autre ne s'impose pas comme une évidence, mais bien comme le résultat d'une vraie réflexion. J'avoue qu'on s'est posé la question avec mon compagnon de savoir se désigner auprès des noms proches, poursuit Elodie. Mon homme trop intime, mon copain trop éphémère, mon mari pas tout à fait juste, j'ai opté pour mon compagnon. Maintenant, ça ne me fait plus bizarre de le dire, c'est peut-être parce que j'ai 28 ans.
Mais moi, c'est ce que je fais aussi. J'estime que le copain, c'est plutôt quand on est adolescent, adolescente. Et puis après, ça fait plus sérieux de dire mon compagnon.
Alors, plus le couple est durable, plus les options de surnoms sont variées, surtout quand il n'y a ni pax ni mariage. Ainsi, Émilie explique, nous sommes en couple depuis bientôt 3 ans, bientôt parents aussi. Ça dépend du public pour moi. Au boulot, je parle de mon conjoint, à des connaissances aussi, alors je dis mon chéri. À des proches, je vais parler de chouchou si je suis d'humeur quelque peu moqueuse ou l'appeler par son prénom tout simplement. En revanche, quand les couples finissent mariés, deux grandes équipes se forment. La première est absolument contre l'utilisation des expressions « mon mari » ou « ma femme ». Certains, comme Maria, utilisent toujours l'expression « mon fiancé », même après 32 ans de mariage. De son côté, Justine trouve que, aussi que l'expression « mon mari » fait vieux jeu. En couple depuis 12 ans, mariée depuis un an et demi, j'avoue avoir beaucoup de mal à dire « mon mari ». Je trouve que ça fait vieux, mais bon, en même temps, nous vieillissons. J'emploie surtout le mot « conjoint ». À l'inverse, il existe aussi la team « ma femme, mon mari ». Ainsi, Cindy raconte, mariée depuis un an et demi, on commence seulement à ne plus rire bêtement après avoir dit mon mari ou ma femme, mais si je crois que je dis plus souvent mon chéri ou mon copain. Voilà. Pour Marine, ça dépend surtout du ton de la conversation. Au quotidien, je dis mon mec, dans une conversation plus sérieuse, je dis mon mari, et lui aime m'appeler mon épouse, il est très vieux jeu.
C'est mignon tout ça quand même.
Alors, nous y voilà.
Et d'ailleurs, Caroline, toi qui es mariée, quand vous êtes voilà, en société, vous dites quoi ou...
Moi, je dis souvent son prénom.
Son prénom ?
Ouais. Voilà. Je crois qu'il fait la même chose, en fait.
D'accord.
Bon. Mais puis, il n'y a pas de discussion
Non, c'est pas quelque chose.
C'est venu naturellement.
Coup, ouais.
Bien.
Bon, tu n'y échapperas pas.
Et non,
mais
non.
Une fois que le couple s'installe,
Vient le sexe, effectivement, et la question de la comparaison reste toujours en tête. Alors, est-ce que vous avez une vie sexuelle normale ?
Eh oui, alors avez-vous une vie sexuelle normale ?
Alors,
ça veut dire quoi, une vie sexuelle normale ?
Mais c'est des moyennes, évidemment, dont on va parler. Se comparer, c'est mal, c'est sûr, et pourtant, à force d'entendre certains se vanter de leurs multiples conquêtes et de leur intense libido, on peut s'empêcher de se demander si notre vie sexuelle est satisfaisante. Est-ce que je fais assez l'amour ? Est-ce que j'ai eu assez de partenaires ? Etc. Alors, Wired, c'est une série vidéo, compile de nombreuses statistiques pour nous aider aussi à répondre à ces questions. Il s'agit bien entendu de données américaines et en France, les chiffres sont parfois sensiblement différents. Par exemple, aux États-Unis, l'âge du premier rapport sexuel est de 16 ans et 8 mois pour les garçons, contre 17 ans et 4 mois en France. Les filles américaines ont leur premier rapport à 17 ans et 2 mois, contre 17 ans et 6 mois chez nous. Donc l'écart n'est pas non plus si énorme que ça. Alors, d'autres informations amusantes à retenir. En moyenne, tout au long d'une vie, nous embrassons 21,5 personnes. Et là, on se demande à quoi ressemble un demi-baiser.
Une
demi-personne.
Il n'y a pas la langue, je sais pas.
Nous échangeons 278 types de bactéries.
Pendant un baiser ?
Non, au total, tout au long d'une vie. D'accord. Une femme a 1836 orgasmes contre 4233 pour l'homme. Ah, c'est précis. Hein. En fonction de la génération à laquelle on appartient, le nombre de partenaires au cours d'une vie varie. Pour les baby-boomers, il est estimé à 12. La génération X se contentera de 10 partenaires, alors que la génération Y, hein, c'est nous, Anne-Marie, la génération Y, n'aura que 8 partenaires. Contrairement à ce qu'on s'imagine, nos parents se sont bien amusés.
Ils nous ont donc pas
c'est
tout
quoi,
dit.
C'est quoi la génération X ?
Bah, c'est entre les baby-boomers et la génération Y.
C'est moi, quoi. Dis-le, Guillaume.
Oui.
Ouais,
on va dire ça comme ça.
Je vais vous laisser, j'ai un peu de retard.
Fred, si tu nous entends.
Ça tombe bien, il n'a pas de course, t'as pas une idée.
Pour aller
finir l'émission, Anne-Marie.
Bon, d'accord, ok.
C'est chaud. Hein.
C'est pas le temps, on vous avait prévenu.
C'est vrai. Peut-être que tu vas nous en parler, mais au printemps, les hormones.
C'est un sujet printanier, c'est ça.
Ah non, c'est pas du tout de ça dont je vais parler. Je suis désolée, Anne-Marie.
Alors, eh bien, au fil du temps, il faut quand même en parler, parce que c'est pas toujours cuicui les oiseaux chantent.
Non, parfois le lien se distend.
Exactement.
Et c'est là que l'application Happy Couple peut entrer en jeu.
Il y a une application.
Et oui, en effet, l'application Happy Couple peut vous rendre heureux, comme son nom l'indique. Depuis quelques mois, cette nouvelle application permet aux couples de mieux se connaître en répondant à 5 questions par jour. C'est tout, et ça prend 5 minutes. La seule condition, être à deux. Vous et votre moitié devez chacun télécharger l'application Happy Couple et lier vos comptes. Ensuite, vous renseignez dans votre profil commun depuis combien de temps vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble avec des enfants, etc. Les questions seront ensuite adaptées à votre profil. Aujourd'hui, l'application recense plus de 15 000 utilisateurs par jour et 4 millions de réponses aux questions. Alors, les questions sont simples et toujours en miroir. Vous recevez, si votre conjoint gagne au loto, il fera quoi de cet argent ? Et votre conjoint reçoit, si vous gagnez au loto, vous en ferez quoi en premier ? C'est le même principe, en fait, que les amours, vous savez, où vous avez ces petits cœurs là qui montent dans le...
Sauf que là, tu gagnes pas de voyage.
Non. Les questions sont... Donc, pour chacune des questions, 4 réponses sont proposées. Et si aucune ne vous convient, vous pouvez toujours en rajouter une. Les réponses sont ensuite comparées. Votre score augmente quand vous avez tous les deux bien répondu. Plus vous cumulez de points, plus vous passez des niveaux. Hein, c'est comme dans un jeu. Et à chaque niveau, vous avez des challenges qui sont proposés avec des petits conseils au quotidien. Alors l'intérêt de cette application pour ses créateurs n'est pas seulement de vous rendre encore plus cucu que vous l'êtes déjà, mais c'est surtout de mettre le doigt sur vos problèmes de couple et combler un manque de communication.
Bon, bah en tout cas, merci parce que pour cette découverte. Moi, je ne connaissais pas cette application. Bon, il y avait quand même d'autres actus, on s'en doute, hein, sur cette thématique, mais tu n'as pas voulu parler de tout.
Oui, bah, c'est-à-dire que l'horaire de diffusion de notre émission ne permet pas forcément de parler de tout. Parce qu'en effet, la semaine dernière, c'était le salon de l'érotisme à Paris. Et la presse a distillé notamment les nouveautés en termes de sextoys.
Ah oui, mais ça, c'est pour Anne-Marie. Oh, bah, oui. C'est pour ça que tu ne pouvais pas en parler aussi, Guillaume.
C'est ça. C'est sûr qu'on attend toujours cette chronique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours déposer dans sa boîte aux lettres.
Tout à fait.
Tous les objets nécessaires. Mais je vous invite quand même à aller lire le magazine.
Nécessaire à quoi?
Le magazine Néon. Pardon?
Tu me dis sextoy. Tous les... Oui, mais nécessaire, tu dis.
Donc
mais...
tous les objets nécessaires à ta chronique.
Ah, oui.
Ta
nécessaire,
future chronique.
C'est pour... Voilà, c'est pour ça que je te disais, nécessaire à quoi?
Donc, dans le magazine Néon...
Ou à autre chose. Ouais, je préfère qu'on précise.
Dans le magazine Néon, je vous invite à lire un test de sextoys connectés. Donc je pouvais vraiment pas décemment vous en parler à cette heure-ci sur 48FM, mais c'est une, quand même une solution intéressante à étudier pour vivre des relations à distance. Je ne vous en dirai pas plus, mais allez lire cet article. On aurait pu aussi parler de la primaire américaine, hein, de Donald Trump et de la taille de son pénis, mais aussi, et ça c'est
oui,
beaucoup
ou
plus
pas
drôle,
pas, ou pas,
ou pas,
hein,
mais c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus drôle, ça c'était dans Midi Libre, c'est l'actu sur Bernie Sanders qui a le soutien de 3 dominatrices, les Doms for Bernie, une manière qui propose de contribuer à la campagne du candidat démocrate à la présidentielle américaine d'une manière originale. Elles offrent en effet la possibilité à des employés de Wall Street de se faire volontairement fesser pendant 15 minutes pour la somme de $27, ce qui correspond à 24,60 €. Mais alors pourquoi cette proposition? Simplement parce que le principal rival d'Hillary Clinton, qui est d'ailleurs le préféré des Français, paraît-il, critique régulièrement Wall Street dans ses discours. Et donc, tous les fonds collectés par les dominatrices serviront à financer sa campagne. C'est original, non?
C'est original.
Pathétique.
Avant de conclure, il faut que je vous dise que Anne-Marie s'est vantée cette semaine par mail interposé parce que la banane revient à la mode.
Tout à fait.
Hein, tu as reçu la même chose que moi, Guillaume.
Et là, j'ai eu peur. Hein.
Alors, je voudrais rappeler que nous attendons toujours pour pouvoir comparer parce que du coup, elle se vantait d'être à la mode. Tout ça. On ne peut pas savoir. On n'a toujours pas vu la fameuse banane.
Oui, non, mais voilà, c'est qu'elle l'a hein, maintenant. Ouais. Vu la façon dont elle a rédigé le message, elle l'a, mais elle ne souhaite pas la montrer.
C'est ça.
Je crois
juste pour expliquer aux auditeurs, effectivement, j'ai lu un article dans un magazine féminin. Les bananes sont à la mode en ce moment. Les bananes, donc, ce qu'on portait avant, c'était très très moche, hein, mais bon, voilà. Autour.
La banane jaune, quoi.
Voilà.
Alors, là, pour le coup, elle n'était pas très colorée, celle que tu nous as envoyée, alors que la tienne était fluo, nous as-tu laissé entendre.
Avec un petit singe, là, qui.
Oui,
Mais je ne sais pas où elle est.
On aimerait vraiment bien voir ça.
Voilà.
Bon, et alors, on écoute maintenant une chanson.
Et oui, alors, je vais vous proposer d'écouter quelqu'un qui est en deuil de son plus fidèle soutien. On l'a appris il y a quelques jours, Mireille Mathieu a perdu sa maman, qui l'a toujours beaucoup soutenue dans sa carrière, hein, qui a suivi vraiment sa carrière.
Et qui signait aussi les autographes à côté de Mireille Mathieu, j'ai vu ça, lorsqu'elle a signé des autographes. Et sa maman était tellement connue que les fans voulaient aussi avoir des autographes de sa maman.
Et donc, pour cette chronique qui parlait quand même un petit peu d'amour, je vous propose d'écouter...
Non, tu nous as pas parlé d'amour, tu nous as parlé de sexe.
Mais si, je vous ai parlé d'happy couple, c'est bien pour l'amour. Allez, bon, quand même. Et donc, je vous propose de terminer avec une femme amoureuse.
Aujourd'hui, voilà qu'il s'arrête sur nous. je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais, je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Vous êtes bien toujours sur 48 FM.
Dans Actuel et lui.
Non, bah, ne
avec
croyez pas avoir été mis en
fabuleuse.
Avoir été mis en ligne avec la musique d'attente
de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Non, on va quand même c'est quand même le printemps de Vivaldi. C'est quand même.
Et oui, puisque c'est le moment, donc je vais vous parler du printemps. Qui était un peu précoce cette année, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, puisqu'il est arrivé le 20 mars. Ça faisait 120 ans qu'il n'était pas arrivé si tôt. Alors, savez-vous ce qu'est l'équinoxe de printemps, Anne-Marie ? Je te sens dubitative.
Non, mais tu vas nous le dire.
Mais oui, bien évidemment, Guillaume.
Non.
Bon, alors l'équinoxe de printemps, c'est correspond au moment de l'année où le soleil traverse le plan équatorial de la Terre.
Ah oui.
L'astre
d'accord.
est alors au zénith de l'équateur. La conséquence la plus connue de ce phénomène astronomique est que les nuits et les jours ont la même durée approximative partout sur la Terre dans les deux hémisphères sud et nord. Voilà. Alors, du côté de notre hémisphère nord, à partir de l'équinoxe, les jours rallongent et nous sommes à mi-chemin entre les courtes journées de décembre et les longues journées de juin. Voilà, oui. Et donc l'équinoxe peut varier entre le 19 et le 21 mars. Alors, plusieurs explications à ça, et notamment celle de la Terre qui ne met pas exactement 365 jours à faire le tour du Soleil, comme vous le savez.
Ah, c'est bien pour ça que février, parfois, il y a plus ou moins de jours.
C'est ça. Et notre calendrier grégorien, qui a été établi au XVIe siècle, est beaucoup trop simpliste avec ses 365 jours. Il faut en effet 365,2422 jours très exactement. Soit 365 jours, 5 heures et 46 minutes pour que nous ayons fait le tour complet du soleil. Nous sommes déjà obligés d'ajouter de temps à autre un 29 février, ce qu'on appelle les années bissextiles, comme cette année. Voilà.
Donc si tu nais le 29 février, autant dire que tu n'auras pas beaucoup de fêtes d'anniversaire dans ta vie.
C'est ça, tu n'es pas très vieux.
Voilà.
L'homme n'a donc pas tout à fait réussi à adapter son calendrier à la loi des saisons. Voilà, il faut savoir que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'équinoxes au 20 mars. Ce fut le cas déjà l'année dernière. Hein. L'équinoxe de printemps avait eu lieu le 20 mars à 22h45 et 9 secondes.
On s'en souvient.
Voilà, exactement. Il faudra attendre l'année 2044 pour que l'équinoxe ait lieu le 19 mars. Et 2102 pour que l'équinoxe ait à nouveau lieu le 21 mars. Autant vous dire que donc il va y avoir énormément de 20 mars d'ici là. Un petit mot sur l'équinoxe d'automne, ça vous intéresse ?
Ah bah bien sûr.
Voilà. Alors, les règles régissant l'équinoxe de printemps sont les mêmes que celles de l'automne. Voilà pourquoi cette dernière peut tomber sur un des quatre jours suivants, les 21, 22, 23 ou 24 septembre. Ce sont les 22 et 23 septembre qui sont les plus souvent retenus pour marquer la fin de la période estivale. Donc le prochain automne sera un 21 septembre. Le prochain automne, un 21 septembre, n'arrivera qu'en 2092. Une première depuis l'instauration du calendrier grégorien, quand même. Et le 24 septembre, lui, ne reviendra qu'en 2303. Autant dire qu'on ne sera sûrement plus là.
Oui, bah même 2092.
Bah oui.
En 2092, on pourrait encore, mais peut-être. On ne sera peut-être pas encore dans un état à se souvenir.
De la génération
Y. On ne se souviendra peut-être pas de cette chronique, par contre.
Et vous êtes qui ? Je comprends pas.
Alors, avec l'arrivée du printemps, correspond quelque chose d'annuel ?
Le changement d'heure.
Exactement, Guillaume, le changement d'heure qui est prévu donc pour la nuit de samedi à dimanche matin.
De cette semaine ?
De cette semaine.
Ah bah tu fais bien de le dire parce que je ne savais pas quand est-ce que c'était.
Tu aurais été en retard au boulot le dimanche matin.
Ça tombe bien, je travaille pas.
Donc à 2h du matin, il s'agira d'avancer jusqu'à 3h. Sa montre ou son horloge avec l'objectif de profiter de la luminosité accrue en soirée pour réaliser des économies d'énergie à l'échelle du pays.
Ouais, enfin ça c'est toujours le même alors, discours, le même débat.
Anne-Marie nous en avait parlé.
Non, c'était toi, je crois, Guillaume, en disant que finalement aujourd'hui, maintenant les économies n'étaient plus celles de l'époque.
Je vais y venir.
Ça perturbe les animaux, les vieux, les jeunes, enfin je suis pas sûre.
Anne-Marie, semble-t-il.
Aussi. Moi, j'aime bien dormir et moi, ça m'embête.
Ouais. Alors, en tout cas, à l'automne dernier, un sondage mené par Opinionway indiquait que 75% des Français aimeraient rester à l'heure d'été.
Bah,
je sais
oui.
pas si c'est votre cas.
Bah, peu importe, mais au moins qu'on ne change pas d'heure deux fois par an, quoi.
Oui, plutôt l'été quand même, parce que bon, c'est vrai que l'été, ça serait dommage finalement de ne pas profiter de la longueur des journées.
Bien sûr. Alors, savez-vous à quand remonte ce changement d'heure ?
Non. Aucune idée.
Non, ça c'était sans doute dans la chronique qui avait été faite
sûrement,
à l'époque.
Sûrement.
Mais comme on s'en souvient plus.
Ça vous semble récent, ça vous semble ?
Ça doit être après le premier choc pétrolier, non ?
Alors, c'est ce qui concerne notre changement d'heure actuel, oui, c'est en 75 sous le gouvernement Chirac, effectivement, après le premier choc pétrolier. Mais le premier changement d'heure chez nous a eu lieu en 1916. Ça a donc 100 ans cette année,
ah bah
pendant
voilà.
la guerre. C'est et la c'est fête. Donc.
Et qu'est-ce qu'on fait pour ce jour de fête?
On change d'heure. On change d'heure. Alors, la mesure avait été appliquée par l'Allemagne et l'Autriche, Hongrie. L'objectif était de conserver du charbon pour l'effort de guerre. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient imité cette invention avant de l'abandonner au retour de la paix. Et c'est donc en 1975 que le système a été adopté par le gouvernement Chirac pour réduire la consommation d'énergie après cette crise pétrolière. C'est en 1998 que l'ensemble des pays européens ont harmonisé ce changement d'heure. C'était une façon de ne pas contrarier le marché unique et de le faire bien fonctionner.
Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux changer tous en même temps. Parce que
c'est ça, autrement ça peut poser problème.
Sinon, ça devient un peu emmerdant pour tout le monde.
Alors, l'objectif du changement d'heure avancé par les autorités est simple, donc faire mieux correspondre les horaires d'activité avec les horaires d'ensoleillement afin de limiter les dépenses d'éclairage artificiel en profitant de 60 minutes supplémentaires de jour en fin d'après-midi ou en soirée. En effet, le passage à l'heure d'été a des conséquences sur l'heure de lever et de coucher du soleil. L'astre apparaît plus tard aux petites heures du matin. En revanche, il disparaît à l'ouest 60 minutes plus tard. Or, en France, les activités sont beaucoup plus importantes en fin de journée. C'est notamment entre 18 et 21 heures que l'on constate la plus forte consommation d'électricité, alors qu'aux premières heures du jour, autour de 6-7 heures du matin, elles sont moindres. Ça paraît incroyable. Ce décalage permet donc, selon ses partisans, bien évidemment, de mieux faire coïncider les heures d'éclairage naturel et les habitudes de consommation des citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors quand même, Anne-Marie, pour te répondre, les derniers chiffres évaluant la consommation d'énergie datent de l'année 2009. On estimait alors l'économie réalisée à 440 gigawatts pour ce qui concerne un seul éclairage. Le seul éclairage, un chiffre qui correspond à l'usage pendant un an d'une ville de 800 000 ménages au total. Soit les agglomérations de Lyon et de Marseille cumulées.
Mais c'est pour la France ou pour l'Europe ?
Sceptique.
Pour la France, je pense. Alors oui, c'est pas précisé. Beaucoup d'autres chiffres ont été donnés, circulent depuis cette date. 44 000 tonnes de CO2 seraient évitées grâce au changement d'heure, selon le ministère de l'Écologie.
Moi, je reste sceptique, mais bon.
Moi, je reste très, très sceptique. Hein.
Et puis, on a un exemple flagrant. Là, on est dans les studios de 48 FM. Il fait jour, on allume quand même la lumière. Donc, je pense que si vraiment on veut faire des économies d'énergie, il va falloir qu'on s'y mette tous, mais que le changement d'heure n'a pas vraiment... Enfin, pour moi, ce n'est pas parce qu'on change d'heure qu'on va faire forcément plus d'économies ou pas. C'est aussi à nous de nous prendre
J'ai éteint
en
la
main.
Lumière.
Non ? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, oui,
c'est sûr. À nous tous de faire bien des sûr. Efforts au quotidien et voilà.
Alors, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy avait adopté l'heure allemande. En calant la France sur le fuseau horaire de Berlin. L'heure légale était ainsi avancée d'une heure par rapport à son fuseau de référence. Et depuis plus de 70 ans, l'heure légale française est revenue au Greenwich Mean Time, c'est-à-dire plus une heure pour un retour à la normale. Voilà pour les petites infos de ce changement d'heure. Alors, savez-vous qu'il y avait un fervent partisan de ce changement d'heure bien avant 1916 ? Ça devait être dans ta chronique aussi, Guillaume, sûrement.
Je ne me souviens pas.
L'inventeur et homme politique américain Benjamin Franklin. En 1784, il est ambassadeur des États-Unis en France. Il est réveillé très tôt par un bruit dans la rue et constatant à travers ses rideaux qu'il fait grand jour, il envoie une lettre sarcastique au journal de Paris. Dans le courrier, il se désole des heures de lumière matinale perdues et propose aux Parisiens de se lever plus tôt. Voilà, donc vous voyez, c'est un débat qui date et qui est revenu donc au début du XXe siècle pour être appliqué. Alors, de nombreux pays dans le monde n'appliquent pas ce changement d'heure quand même. Hein. Il y en a seulement 70 qui l'appliquent. Pour que le système ait un sens, il faut que les variations saisonnières de luminosité soient suffisamment importantes pour que changer d'heure soit pertinent, bien évidemment. On imagine bien que plus on se rapproche de l'équateur, moins ça l'est, justement. Voilà. Alors, des pays ont aussi fait ce changement d'heure et puis ont fait marche arrière. C'est le cas de la Russie qui a décidé d'abroger ce changement d'heure en février 2011. Il avait été introduit en 1981, à l'époque soviétique. La même année, l'Égypte, l'Ukraine et la Biélorussie choisissaient aussi d'abandonner le changement d'heure. L'Arménie a fait de même en 2012, la Tunisie en 2000. En reculant dans le temps, on constate que le Japon a appliqué l'heure d'été entre 1949 et 1952. L'archipel était alors contrôlé par l'armée américaine. Cette mesure, alors très impopulaire, a fait l'objet de nouveaux débats dans les années 90. Alors bien évidemment, ce changement d'heure annuel donne lieu chaque année à de grands débats entre les pour et les contre. On a bien compris qu'Anne-Marie n'était pas trop pour.
Non ?
Et toi, Guillaume ?
Non, moi, tant qu'on peut profiter effectivement du jour l'été, moi je trouve ça très bien.
Oui, ça je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est très agréable.
Avec ou changement, enfin avec ou sans, rien ne t'empêche de sortir
c'est
et
vrai que
d'être
c'est très
sur ton balcon.
Actuellement, de sortir du boulot.
J'ai pas de balcon, donc ça m'empêche.
Bah, dans les rues de Mende.
C'est vrai que c'est agréable de sortir du boulot en ce moment et de ne pas penser qu'on va déjà se coucher, quoi.
C'est ça.
Mais là, c'est aussi parce que les jours rallongent.
Oui,
c'est pas forcément
sûr.
Une question d'heure.
On revient à mon équinoxe de printemps.
Voilà. Non, mais je veux dire, de façon naturelle,
bien
effectivement,
bien
là, il y a les jours qui rallongent.
Tout à fait.
Bien, mais donc, c'était ce que tu voulais nous
voilà,
dire aujourd'hui.
Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.
Donc, pas d'hormones. Hein.
Ah non, je suis désolée, Anne-Marie. Ah, j'ai pas pensé à cet aspect-là, mais effectivement, je sens bien que vous êtes tout frétillants, tous les deux.
Bon, et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour rester dans ce thème du printemps ?
Ah, dans ce thème du printemps et dans cette playlist fabuleuse qui doit beaucoup plaire à Ludovic.
Oui,
on va lui faire une spéciale dédicace aujourd'hui. Alors, j'avais le choix entre Henri Dess et Michel Fugain. J'ai choisi Michel Fugain.
Alors, vous allez voir, c'est Michel Fugain avec le Big Bazar, je vous assure. C'est formidable.
C'est une découverte pour Guillaume, semble-t-il.
C'est dommage parce qu'Henri Dess, on aurait eu beaucoup d'auditeurs jeunes.
Et oui, vu que mais l'heure de diffusion est...
Et avec Mireille Mathieu... Des auditeurs vieux, comme ça.
Mais là, c'est pas mal, vous allez voir, c'est festif, c'est un petit côté pittoresque.
C'est printemps.
C'est très printanier.
Actuel et lui.
Ben voilà, c'était...
Alors la prochaine chronique d'Anne-Marie sera sur les poulaillers.
Voilà, c'était printanier cette chanson. Hein. Moi, c'est une découverte pour Anne-Marie et moi. Mais c'est vrai que c'est très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement.
C'est festif, léger.
C'est ça, festif, léger, tout à fait. Bon, on vous souhaite une très bonne quinzaine. On vous donne évidemment rendez-vous sur le net pour nous réécouter sur 48fm.org et puis lors des rediffusions, le mardi à 19h et le jeudi à 12h30. Voilà, d'ici dans 15 jours, on vous souhaite une très très bonne quinzaine.
À bientôt.
À bientôt.
Gros bisous.
Actuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.